بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، ثم أما بعد. C'est notre deuxième assise autour de ce sujet, qui est un des sujets très importants dans notre religion, qui est le sujet de la hijra. Et avant d'entamer, là on s'est arrêté dans les paroles de Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh, voici quelques conseils que nos pieux prédécesseurs ont prodigués à la jeunesse. Et comme il est passé par nous tout à l'heure, les pieux prédécesseurs doivent Allah en donner une grande importance à cette partie de la vie de la personne qui est la jeunesse. Dans ce qui est rapporté dans le Hilya d'Abu Na'im rahimahullah ta'ala de Zayd ibn Abi Zarqa, il a dit: kharaja Sufyan wa nahnu ala babihi faqal ya ma'shar ash-shabab ta'ajjalu barakat hadha al-'ilm. Dans cette parole, Soufiane, le rapporteur, il dit: nous étions devant la porte de Soufiane et il est sorti, il a dit: ô jeunes, cherchez la bénédiction de cette science, précipitez-vous à la bénédiction de cette science, c'est-à-dire profitez de l'occasion, c'est-à-dire de l'occasion de votre jeunesse pour acquérir cette science. Car la personne, quand il atteint un certain âge et quand il avance dans l'âge, il n'a plus la même vivacité, ni la même intelligence, ni la même capacité pour mémoriser comme il l'a durant sa jeunesse. En plus de ça, il y a les responsabilités qui se rajoutent à la personne. Des responsabilités qu'il n'a pas quand il était jeune, hein? Et des choses qui vont l'occuper, et des choses qu'il doit chercher, et ainsi de suite. Alors, quand il était jeune, il avait la liberté et l'esprit libre. Allah lui a dit: « Ah, ma'ashara al-shabab, ta'ajjalu barakata hada al-ilm, fa'innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna bihi, liyufid ba'dukum ba'da. » Il dit: « Oh, jeune, profitez de votre jeunesse pour acquérir cette science, car vous ne savez pas si vous allez atteindre ce que vous espérez. Ce que vous espérez, vous ne savez pas si vous allez l'atteindre. Donc profitez de votre temps et acquisez la science, et que les uns profitent des autres dans la science. Hein? Car vous ne savez pas si vous allez atteindre les espoirs que vous imitez. Hein? Peut-être que certains jeunes disent: je vais mémoriser ceci, je vais mémoriser cela, Riyad Salihin, je vais l'avoir en mémoire, ceci, je vais l'avoir en mémoire, etc. Hein? Et je vais lire tant de ces livres dans l'aqida, je vais lire ceci, je vais lire cela. Il reste donc l'espoir. Et il ne s'attelle pas à la tâche. Il n'apprend pas. Mais il reste à y mettre des espoirs et à se projeter: je vais faire, je vais faire, je vais faire. Mais s'il fait des efforts sur lui-même, il tient à prendre comme butin sa jeunesse, ben ceci va être très bénéfique pour lui. Il va acquérir un grand bienfait min Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala va le combler d'un grand bienfait. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Le verset est clair, il dit: ceux qui font des efforts sur le sentier d'Allah, dans les bonnes œuvres, etc., Allah subhanahu wa ta'ala, il leur ouvre des chemins. Les chemins de quoi? De bien, en face d'eux. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala est avec les bienfaisants, ceux qui font les choses à la perfection. Allah subhanahu wa ta'ala les aide à les accomplir. Kadhalika fi ma kharaja al-Bayhaqi fi kitab Zuhd, Hassan al-Basri disait beaucoup, parmi les choses qu'il répétait beaucoup: يا معشر الشباب عليكم بالآخرة فاطلبوها فكثيرا رأينا من طلب الآخرة فأدركها مع الدنيا وما رأينا أحدا طلب الدنيا فأدرك الآخرة مع الدنيا. Parmi les nobles conseils que prodiguait le Hassan al-Basri souvent aux jeunes, il leur dit: ô jeunesse, demandez l'au-delà, c'est-à-dire œuvrez, faites les œuvres qui vont vous permettre d'avoir l'agrément d'Allah, d'avoir l'au-delà. Car nous avons vu beaucoup de gens chercher l'au-delà, ils ont eu le bas-monde aussi. Mais nous n'avons jamais vu quelqu'un chercher le bas-monde et avoir l'au-delà. Hein? Et ça, c'est un point très important sur lequel attire notre attention ce grand imam, auquel la jeunesse doit faire très attention, que son souci doit être l'au-delà, doit être l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, doit être le fait d'avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va te combler de ta part de ce bas monde. Ta part de ce bas monde, tu ne négliges pas, mais ta part de ce bas monde, tu l'auras. Mais tout simplement, hein, il faut que tu cherches plus le delà, tout en utilisant les moyens les légiférés pour avoir ton bas monde. Ça, c'est pas le problème. Le problème ne se passe pas de cette façon. Mais il faut pas que ce bas monde soit ta préoccupation principale, ta préoccupation de tout le temps. Il faut que tu œuvres à l'apprentissage de ta religion. Il faut que tu y œuvres à maîtriser tes 24 heures. La science de tes 24 heures, qui est une science obligatoire pour tout un chacun de nous, tu dois la maîtriser. Depuis que tu te réveilles, jusqu'à ce que tu te couches, tu as des choses à accomplir. Tu dois les maîtriser à l'islam parce que c'est tes obligations individuelles. Hein? Et tu fais pour les choses de ton bas monde, mais que ton bas monde ne détruit pas ton au-delà. Le verset, il est clair. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Il n'oublie pas ta part de ce bas monde. Mais celui qui fait de son but principal l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala lui réunit les deux choses. L'au-delà et ce bas monde. Mais celui qui fait que son but principal, c'est ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le combler de la pauvreté. Et cette situation va être éparpillée. Il y aura beaucoup de soucis. Ses pensées vont être éparpillées. Et il n'aura de ce bas monde que ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a destiné. Et donc ce conseil de l'Hassan al-Basri est un énorme conseil à l'islam. Et dans les conseils de nos pieux prédécesseurs, ridwanullah alayhim, dans ce qui est rapporté par Ibn Abi Dunya dans son livre « L'âge ou la vie », le Omar, et les cheveux gris. Il rapporte de Uqba ibn Abi Hakim, il disait que nous étions assis à Aoun ibn Abdillah, et Aoun ibn Abdillah nous les a dit: Ma'ashara al-Shabab, qad ra'ayna al-Shabab yamoutouna, famada yuntadaru bil-hasadi, ida balaga l'minjalu, wa yamassu l'hiyata. Dit jeunesse, ô assemblée de jeunes, nous avons vu que des jeunes meurent. Qu'est-ce qu'on attend quand la récolte a atteint le moment où il doit être récolté, quand le blé est mûr et quand la fossile s'approche? Il toucha sa barbe pour leur montrer qu'il était d'un certain âge déjà. Hein? Et quand la personne arrive et que il a reçu le message, les cheveux gris, la vue qui diminue, hein, des difficultés pour se déplacer. Hein, qu'est-ce qu'il attend? Et il leur a rappelé aussi que, attention là, des jeunes meurent aussi. Pour ne pas se faire avoir et dire, quand j'aurai 60 ans, je ferai. Quand j'aurai 50 ans, je ferai. Qui te dit que tu vas arriver à 50 ans ou à 60 ans? Personne de nous ne sait quand est-ce que son rendez-vous avec l'ange de la mort il va avoir lieu. Hein? Et dans le même sens, ce que rapporte le Bayhaqi dans son livre Zud, dans les paroles de l'Hassan al-Basri rahimahullah, il disait un jour à ses compagnons qui étaient devant lui: ô assemblée de vieux, hein? Le blé quand il est mûr, il attend quoi? Ils ont dit qu'il soit récolté. Et il a dit, ô assemblée de jeunes, la récolte peut être atteinte par des maladies. Il ne peut pas, et des fois il n'arrive pas à qu'il soit mûr. Ça veut dire, il attire l'attention, ne te fais pas avoir. Tu ne sais pas si tu vas vivre jusqu'à 60 ans, jusqu'à 50 ans, etc. Mais tu dois profiter du moment que tu as, et de cette jeunesse, et faire comme dans le hadith que Rasulullah s'est dit, quand arrive la nuit, tu vis jusqu'à la nuit, n'attends pas le lendemain matin. C'est-à-dire, ne laisse pas les œuvres de la soirée à demain. Et quand tu es réveillé le matin, on vit, va à les œuvres du matin, n'attends pas pour les faire le soir. وجاء عن ابن الجوزي كلام جيد في هذا المعنى يقول يجب على من لا يدري متى يبغته الموت أن يكون مستعدا ولا يغتر بالشباب والصحة فإن أقل من يموت الأشياخ وأكثر من يموت الشبان ولهذا يندل من يكبر. Et cette parole, cette observation est minutieuse de la part d'Ibn al-Jawzi rahimahullah. Dit, il est du devoir de celui qui ne sait pas quand est-ce que la mort va le prendre, qu'il se prépare, qu'il ne se fasse pas avoir par sa santé, par sa jeunesse. Car les vieux ne meurent pas beaucoup. Hein? Sont les vieux meurent peu. Car beaucoup meurent en étant jeunes. C'est pour ça, il est rare que certains atteignent certains âges. C'est pour ça que tu regardes dans les familles. Et cette observation minutieuse de la part de cet imam. Tu regardes dans les familles, combien de personnes ont vécu un siècle dans une famille? Combien ceux qui ont vécu dans 80 ans? Hein? Et combien ils sont peu nombreux par rapport à ceux qui vivent 40 ans, 25 ans, 10 ans, 15 ans? Hein? Et ceci aussi pour attirer notre attention sur cette partie de la vie pour ne pas la perdre à l'islam. Fasse Allah al-Azim. An. يوقظنا من غفلتنا الله سبحانه وتعالى نفاس réveiller de notre insouciance qui fasse que nous soyons parmi ceux qui entendent des paroles et qui les mettent en application. وعودة إلى الشيخ العثيمين رحمة الله عليه وكلامه في المقطع الذي يتكلم عن الهجرة في شرح ثلاثة الأصول. يقول الإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. شمال بلواب رحمة الله عليه. Dans ce passage, il dit « La hijra est une obligation pour cette communauté. La hijra, le fait de quitter le pays de mécréance vers le pays de l'islam, est une obligation pour cette communauté. Et il reste jusqu'à la fin des temps. » La hijra ne s'arrête pas. C'est une obligation jusqu'à la fin des temps. Il cite le verset que nous avons vu tout à l'heure avec l'interprétation du Cheikh Saadi Rahimahullah, qui est quand les gens viennent prendre leur âme, alors qu'ils étaient injustes vis-à-vis d'eux-mêmes, en ayant la capacité de faire la hijra, ils ne l'ont pas fait, et les anges les blâment. Hein? Ils disent, qu'est-ce que vous faisiez? Dans quelle situation vous vous êtes mis? Hein? Ils disent, nous étions faibles. Hein? Mais ceci n'est pas vrai. Et les anges leur disent, hein, est-ce que la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas assez vaste pour que vous y immigrez? Cela, leur demeure sera le feu de l'enfer. Sauf ceux qui sont incapables parmi les hommes et les femmes et les enfants qui ne peuvent rien. Cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonnera. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le pardonneur et le clément. فيقول الشيخ العثيمين رحمه الله معلقا على هذا الباب: فهي واجبة على كل مسلم، أي الهجرة واجبة على كل مسلم لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر، فلا يتم إسلامه إذا كان لا يستطيع إظهاره إلا بالهجرة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يلدي رحمه الله تعالى إلى هجرة est obligatoire pour tout croyant qui ne peut pas accomplir les emblèmes de sa religion, qui ne peut pas faire apparaître sa religion dans un pays qui n'est pas un pays de l'islam. Et son islam serait être complet s'il ne peut pas faire apparaître sa religion. Hein? Et donc, s'il ne peut le faire apparaître sa religion qu'avec la hijra, donc la chose ou le moyen avec lequel on arrive à une obligation devient lui-même une obligation. Donc pour faire apparaître sa religion, c'est la hijra vers un pays de l'islam. Donc cette hijra qui est un moyen devient une obligation. يقول رحمه الله وفي هذه الآية دليل على أن هؤلاء الذين لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة أن الملائكة تتوفاهم وتوبخهم وتقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أما العاجزون عن الهجرة من المستضعفين فقد عفى الله عنهم لعجزهم عن الهجرة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Il dit رحمه الله dans ce verset, c'est-à-dire dans le verset de sourate Nisa concernant qui parle de qui est la preuve de l'obligation de la hijra, il dit que celui-là qui n'ont pas fait leur hijra alors qu'ils étaient capables de faire cette hijra, ceux-là, les anges, quand ils vont venir prendre leur âme, ils vont les blâmer. En leur disant, en leur rappelant, est-ce que la terre d'Allah n'était pas assez vaste pour que vous y immigriez? Quant aux incapables, ceux qui n'étaient pas capables réellement d'accomplir cette hijra parmi les faibles, ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonnera pour leur incapacité. Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas aux personnes ce qu'ils ne peuvent pas. Et nous avons vu dans les paroles du Sa'di rahimahullah que la personne doit accomplir tous ses moyens jusqu'à... Hein, pas tout simplement il se dit « je ne peux pas faire » ou « je n'ai pas la capacité ». Abadan akhal islam. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. اي شيخ محمد بن عبد الوهاب de citer une autre preuve pour la hijra dans sourate l'araignée, verset 56. Ô mes serviteurs qui ont cru, est-ce que ma terre n'était pas assez vaste pour que vous m'adoriez, pour que vous me réserviez le culte exclusivement? Cheikh Ibn Lahab de citer une parole de l'imam Baraoui rahimahullah, dit que la cause de la révélation de ce verset concerne les musulmans qui étaient à la Mecque et qui n'ont pas fait leur hijra. Allah subhanahu wa ta'ala les a interpellés par le terme croyant, par le terme de la foi. Ô vous qui avez cru. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله واسكنه فسيح جناته الظاهر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نقل هذا عن البغوي بمعناه. هذا إن كان نقله من التفسير إذ ليس المذكور في التفسير البغوي لهذه الآية بهذا اللفظ. Et concernant la parole de l'imam Baghawi rahimahullah, Cheikh Al-Uthaymin il commente, il dit, ce qui apparaît c'est que Cheikh Mohamed Ibn Abdelhab, il a cité la définition de la parole de Baghawi. Parce que cette expression n'est pas dans le tafsir de Baghawi. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أبو داود وغيره رحمة الله عليهم جميعا لا تنقطع التوبة لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع توبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أي أنها أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة. إلى بروب دون لا بارول دو ميساجي عليه الصلاة والسلام الحديث شي أبي داود رحمه الله تعالى كي يدي والرسول صلى الله عليه وسلم دي لا هجرة ne s'arrête qu'une fois que le repentir s'arrête. Et le repentir ne s'arrête qu'une fois que le soleil se lève de l'ouest. C'est-à-dire à la fin des temps. Donc la hijra reste jusqu'à la fin des temps. يقول الشيخ ابن عثيم وذلك حين انتهاء العمل الصالح المقبول. قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد يقول الشيخ رحمه الله ببعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربها. الشيخ رحمة الله عليه كمونتون الحديث دبخوة عليه الصلاة والسلام il dit ceci arrivera à quel moment au moment de la fin des bonnes œuvres. Il cite en preuve un verset qui est cité dans Sourat Al-An'am. Quand arrivera certains signes de ton souverain, hein, la foi ne servira pas à certaines âmes parce qu'ils n'avaient pas cru auparavant. Ils n'avaient pas gagné dans sa foi un bien, dans sa foi un bien, dans sa croyance un bien. Et il dit ce qu'il voulait aussi par les signes cité dans le verset, c'est le soleil qui se lève de l'ouest. Le soleil qui se lève de l'ouest. فيقول الشيخ رحمه الله ونذكر هنا حكم السفر إلى بلاد الكفر. Le Cheikh Rahmatullah vient de dire, et nous citons ici, hein, le jugement concernant le fait de voyager vers bilad al-kufr. Tu remarqueras bien un truc avec moi. C'est que les hommes de science et les imams de cette communauté n'appellent pas Hijra ila bilad al-kufr, là, Safar ila bilad al-kufr. Car le Hijra, ce n'est pas comme disent les gens et croient les gens, c'est de venir de bilad al-islam vers bilad al-kufr. Hada là. Hada, c'est faire le voyage de bilad al-islam à bilad al-kufr. Mais le Hijra, c'est délaisser bilad al-kufr et aller vers bilad al-islam. Hada c'est le hijra. C'est pour ça que c'est faux ce qui disent al-muhajiroun fi Europa ou al-muhajiroun. Hada c'est faux. C'est induire les gens en erreur. Car le hijra est un acte d'adoration. Et c'est le fait de délaisser un pays non musulman et de venir vers un pays de l'islam. Et c'est aussi le fait de délaisser un pays où il y a où l'innovation a pignon sur rue et aller vers un endroit où c'est la sunna qui prime. C'est délaisser un pays où il y a le blâmable, la perversité, la débauche, et aller vers un pays où il y a moindre mal. Hein? C'est la réalité de la hijra. Amma, traverser la Méditerranée ou autre, pour arriver dans les pays non musulmans, enfin, ça c'est pas une hijra, c'est un voyage. La personne y vient pour se faire étranger. Pour se faire étranger. Et donc il faut appeler les choses par leur nom. فيقول رحمه الله فنقول السفر الى بلاد الكفر لا يجوز الا بثلاثه شروط. Il dit rahmatullah alayh, voyage vers les pays dont la religion n'est pas l'islam ne peut être accompli qu'avec trois conditions. الشرط الاول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. La première condition, c'est que la personne doit avoir une science avec laquelle il va repousser les ambiguïtés. Billah alaykoum. Les enfants dans les maternelles et dans les écoles primées, ils ont de quoi repousser les shubuhat. Nos frères et nos sœurs qui ne maîtrisent pas la langue de la révélation, ils ont de quoi repousser les shubuhat. هذا une condition. يقول رحمه الله الشرط الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. Il dit la deuxième condition c'est qu'il est sur une religion, il est sur un accomplissement, une pratique de la religion qui est forte, qui le blinde et qui le protège contre les tentations. Hein? الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك. Troisième condition, c'est qu'il ait besoin de ce voyage. Attention, là, il parle de quelqu'un qui va faire tout simplement le voyage. Pas quelqu'un qui va venir habiter, prendre la nationalité, etc. Andak, chauffe. Déjà, Ada, les conditions qu'il y a. Ada, il nous parle du minime pour attirer notre attention sur le plus grand. Hein? يقول فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه الأسفار. Il dit, si ces conditions-là ne sont pas réunies, il n'est pas permis de voyager vers les pays qui ne sont pas des pays de l'islam. Parce qu'il y a de la sédition là-dedans. Il y a la fitna, il y a la perturbation. Il y a la peur de la sédition et de la fitna. Il y a le fait de gaspiller l'argent. Car la personne va payer beaucoup d'argent pour faire ce voyage. Je vous donne un exemple. Vous avez des gens en Afrique du Nord, en Afrique noire, qui maintenant essayent de faire... Hein? Ils appellent ça les hijras sirriya, les hijras secrètes. Mais c'est faux. Ils essayent de voyager, hein, sans papier, sans autorisation, vers l'Europe. Certains parmi eux, hein, vendent des terrains pour faire, pour se faire, hein, pour pouvoir payer cette traversée. Certains parmi eux vendent du troupeau de moutons. Hada, il a une science bénéfique qui va le blinder contre les tentations ici, ou contre les ambiguïtés ici. Quand il vend un terrain d'un hectare, ou de deux hectares, ou là d'un troupeau de moutons, de 50 têtes, ou autre, ou là de deux chameaux, ou autre, Hada, il a une science bénéfique qui va le, hein, qui va le protéger des ambiguïtés. Une religion qui va le blinder contre les tentations. يقول الشيخ رحمه الله وأما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به. الشيخ اللي من maintenant s'il a besoin de ce voyage pour aller subir une opération qu'il ne peut pas subir dans un pays de l'islam, ou pour aller apprendre une science qui n'existe pas dans le pays de l'islam. Et il a la religion, il a la science et il a la religion. Comme nous l'avons décrit, il n'y a pas de mal. Il a besoin de ce voyage, donc pour se faire une opération qu'il ne peut pas et qui ne se fait pas dans le pays de l'islam, d'une, ou se guérir d'une maladie que ici il y a le moyen de la guérir et dans les pays de l'islam c'est pas encore arrivé, et ou alors il va chercher une science qui n'existe pas et qu'il ne peut pas apprendre dans les pays de l'islam. Dans ces cas là il peut, mais à condition d'avoir la science et la religion pour le protéger. Hein? Regarde les conditions d'homme de science et j'attire votre attention, le livre vous l'avez lu, mais il faut s'arrêter dessus pour comprendre. Hada, parce que peut-être que parmi nous, certains ont dû le lire deux, trois fois. Hein? Sinon plus. Ou certains se font la lecture de ce livre entre eux, hein? Entre le Mgharb el-Isha, dans la mosquée ou autre, etc. Mais il y a souvent des choses qui nous échappent, des choses qui attirent notre attention et d'autres choses qui nous échappent. Et jusqu'à maintenant, regarde, il parle que du voyager. Pas d'aller s'installer. Il parle du petit truc. Hein, qui te donne déjà la sentence du grand truc et le fait de vouloir aller s'installer et aller faire rentrer ses enfants dans les écoles et ainsi de suite. يقول وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام. وبلادنا الآن والحمد لله أصبحت بلادا سياحية في بعض المناطق، فبإمكاني أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها. كنت voyage du tourisme, aller faire du tourisme, aller pour la visite dans un pays qui n'est pas musulman, ben c'est pas un besoin, c'est pas une nécessité. Et donc il a dans sa possibilité, il peut voyager, hein, pour visiter des pays musulmans, des pays dans lesquels les gens préservent les emblèmes de la religion. Et il dit en parlant de l'Arabie Saoudite, et notre pays, par la louange à Allah subhanahu wa ta'ala, est devenu un pays touristique. Dans certaines régions, il peut y aller et passer le temps qu'il a, et hein, les vacances qu'il a, il peut les passer là-bas. Billah alaykoum. Les Maghrébins, ils n'ont pas d'endroit touristique au Maghreb. Regarde la beauté de la Kabylie. Regarde la beauté du Sahara algérien. Regarde la beauté du Moyen Atlas au Maroc. Regarde en Tunisie, etc. Ils n'ont pas où aller. Hein? Tu vois des charters de touristes aller pour vers, hein, des régions vers l'Afrique du Nord, et là, hein, certains se jettent dans la gueule du loup, sur des barques qui n'en sont pas, et après ils se font bouffer par les poissons, hein, ils meurent au milieu de la mer, etc. Hein? يقول رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته. وأما الإقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين الإسلام وأخلاقه وسلوكه وآدابه. وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا فساقا، وبعضهم رجع مرتدا عن دينه وكافرا به وبسائر الأديان والعياذ بالله، حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين. ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوي في تلك المهالك. إذ حفظه الله تعالى كنترول فت d'aller résider dans les pays qui ne sont pas des pays de l'islam. C'est un grand danger pour la religion musulmane et pour la religion de la personne. Et un grand danger pour son comportement. Il dit, nous avons vu, et d'autres ont vu, la déviance de ceux qui sont allés résider au milieu dans ce genre de pays. Ils sont revenus, après avoir passé un laps de temps là-bas, ils sont revenus des pervers. Certains parmi eux ont apostasé de l'islam. Ils sont devenus mécréants. Ils ne croient plus aucune religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Certains sont revenus. Ils se moquent de la religion. Ils se moquent des gens de la religion, les anciens et les contemporains. Il dit, c'est pour ça qu'il est du devoir, hein, de mettre des conditions pour se préserver, pour ne pas tomber dans ce gouffre de la perte. Je vous donne des exemples. Il y a quelques années en arrière, on avait la possibilité de faire dawa dans l'une des salles de prière, dans un campus universitaire au nord de la France. Il y avait beaucoup de Maghrébins qui arrivaient, que ce soit de Tunisie, du Maroc ou autre, pour avancer dans les études. Certains même avaient un poste déjà dans leur pays d'origine. Certains revenaient, d'autres restaient là à l'islam. D'autres restaient là. Et pire encore, c'est que ce diplôme qu'ils ont obtenu, la communauté en a besoin. Mais d'où on les a envoyés? Et certains ont travaillé pour rester ici comme gardiens de nuit. Certains se sont vus se marier avec des femmes qui ne sont pas musulmanes pour avoir les papiers pour pouvoir rester. Et maintenant, haïssa baïssa avec les enfants. Haïssa baïssa. Certains sont revenus dans les pays de l'islam, ils sont revenus des redoutables laïcs à contre-attaquer, à attaquer les musulmans, à critiquer les musulmans, etc. Donc ce que dit Cheikh Hafidhahullah, même s'il n'est pas sorti, il est sorti une fois pour aller aux États-Unis pour et il est revenu très vite pour se faire guérir avant sa mort, rahimahullah. Mais de par la législation, de par la science de la législation, de par ce que les gens lui racontent, ce que ceux qui ont vécu là-bas, etc., il sait la situation comment il est. Hein? Il sait la situation comment il est. يقول رحمه الله فالإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين أساسيين. Résider et rester dans les pays qui ne sont pas des pays de l'islam, il a besoin de deux conditions, de réunir deux conditions à l'islam. الشرط الأول أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ. La première condition, et réfléchis à cette condition, et chacun de nous pèse la situation et regarde ce qu'il est dans cette condition. Est-ce que tous nous avons cette condition? C'est qu'il d'avoir la sécurité pour sa religion. Hein? En ayant de la science et de la foi, et une forte résolution qui va permettre à la personne d'être ferme dans sa religion et de faire attention à ne pas dévier. Billah alek. C'est toi, tu l'as. Tu es sûr que ta femme l'a? Tu es sûr que ta petite fille? Là, il nous posera des questions sur nos enfants. On est sûr que nos enfants, ils l'ont? Hein? Comment ils peuvent l'avoir? Alors que la majorité du temps ne se passe pas autour de Qala Allah, Qala Rasuluhu, Qala Sahaba. Il se passe dans l'apprentissage d'autre chose. Comment ils peuvent être immunisés? Et la situation est énorme. Et vivant ici, vous voyez les situations comment ils sont. Hein? C'est pas tout simplement parce qu'il y a des constructions de mosquées. Nous n'avons pas besoin de murs seulement. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces murs? Quelle dawa sort de ces murs? Quelle éducation est donnée dans ces murs? يقول رحمه الله الشرط الثاني أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ. La deuxième condition, c'est qu'il soit dans la possibilité d'accomplir sa religion et de faire apparaître sa religion. De faire apparaître les emblèmes de sa religion. Sans qu'il y ait d'obstacle et sans qu'on lui interdise. Qu'on lui interdise pas le fait d'accomplir la prière du vendredi, d'aller accomplir les prières en commun. S'il y a des gens avec lesquels il doit accomplir la possibilité d'accomplir la prière en commun et d'accomplir le Jumu'ah, et qu'on lui interdise pas le fait de donner sa zakat, de jeûner, de faire le pèlerinage et autres parmi les emblèmes de la religion. S'il peut pas, il n'a pas le droit de rester. Dans ce cas-là, la hijra devient obligatoire. Et regarde, à l'islam, combien d'emblèmes de la religion on ne peut pas accomplir maintenant. Hijab fait partie de la religion. Hein? Les filles ne peuvent pas aller à l'école avec le hijab. La nourriture halal fait partie de notre religion. Les enfants ne peuvent pas avoir le halal dans les cantines. Vrai ou faux? Hein? Fait partie des emblèmes de la religion le sacrifice du mouton. Le sacrifice, la fête du sacrifice. Regarde toutes les tracasseries, toute la peur Chaque fois, les gens subissent pour pouvoir sacrifier. Il a les styles longs à l'islam. Et tu vis ici, tu sais. Hein? Mais quand on est dans un endroit, des fois, le mal qui existe, on n'y fait plus attention. Des fois, les gens te disent, mais regarde la perversité qu'il y a dans tel pays de l'islam, etc. Mais il a oublié ce qu'il y a là. Chaque heure, il entend les cloches qui sont le signal de l'associationnisme et l'emblème de l'associationnisme. Regarde la perversité qu'il voit ici, il est devenu normal devant lui. Hein? Et quand tu le rappelles, tu essaies de lui faire le rappel, etc., tout de suite. Mais tu n'as pas vu ce qui se passe là-bas. Nous avons vu la parole de Cheikh Nasr, rahimahullah, pour répliquer à ce genre d'ambiguïté. Hein? Il viendra d'autres paroles, rahimahullah, d'autres paroles de Cheikh Nasr, rahimahullah, alayhi. يقول وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام. Il dit après avoir réuni ces deux conditions, résider dans le pays non musulman est divisé en plusieurs parties. القسم الأول أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه فهذا نوع من الجهاد فهي فرض كفاية على من قدر عليها بشرط أن تتحقق الدعوة وأن لا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليها لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان فقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له. Et le premier genre de résidence dans les pays non musulmans, c'est que la personne y réside, y reste pour appeler vers l'islam et pour inciter les gens à rentrer dans l'islam. Et ça fait partie, c'est un genre de combat qui est un devoir collectif contre ceux qui sont capables de le faire, l'accomplissent, khlas. Ceux qui sont capables de l'accomplir le font, khlas. Mais à condition que cette da'wah s'accomplit, et qu'il n'y a rien qui empêche cette da'wah, et qu'il n'y a rien qui empêche qu'on les gens à répondre à cette da'wah. Car la da'wah vers l'islam est une des obligations de la religion, et c'est la voie du messager alayhi salatu wassalam, et le rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de transmettre de lui en tout lieu et en tout temps, et il nous a enseigné, alayhi salatu wassalam, comme il est rapporté par l'imam Bukhari, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Hein? Mais cette da'wah a besoin de quoi avant? Cette da'wah a besoin d'une science. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. La da'wah a besoin d'une science pour repousser les ambiguïtés. Le verset, il est clair. Dis-leur, ya Muhammad, ça c'est ma voix. J'appelle vers Allah, j'appelle pas vers un hizb, ni vers un parti, ni vers un groupe, ni vers une race. J'appelle vers Allah avec science, avec clairvoyance, avec science. Moi et ceux qui me suivent. Hein? Parce que certains qui sont des ignorants disent on est là pour dawa. Hein? Hein? Le groupe dit le globe trotters. On est là pour dawa. Et il n'y a pas de science, donc il n'y a pas de dawa à l'islam. Le qism al-thani. أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة وبطلان التعبد وانحلال الأخلاق وفوضوية السلوك. La deuxième forme de résidence au milieu non musulman, c'est d'y résider pour étudier la situation des non musulmans, connaître le mal dans lequel ils baignent, le libertinage dans lequel ils sont, le mauvais comportement dans lequel ils sont, la fausseté de ce qu'ils adorent et l'anarchie du comportement dans lequel ils sont. Limada yuhaddir an-nas min al-ightirar bihim wa yubayyin lil-mu'jabin bihim haqiqat halihim. وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضا لما يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه. Pourquoi cette forme de résidence il est autorisée? Pour avertir les gens et pour que les gens ne se fassent pas avoir et pour que les gens ne soient pas ébahis de la situation dans laquelle se trouvent les non-musulmans et qu'ils connaissent la réalité de leur situation. Et ce genre de résidence est une résidence qui fait partie du combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il en découle le fait d'avertir contre la mécréance et tout ce qu'il contient, et ça incite à l'islam et au bienfait de l'islam. يقول رحمه الله لأن فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام. Pourquoi? Parce que le faux et le mal de la mécréance prouvent le bien de l'islam. كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. Comme on dit, on reconnaît et on connaît réellement la réalité d'une chose avec en connaissant son contraire. En connaissant sont contraires à l'islam. Fa yaqulu rahimahullah lakin la budda min shart an yatahaqqaqa muraduhu bidun mafsadatin a'zam minhu fa in lam yatahaqqaq muraduhu bi an muni'a min nashr ma hum alayhi wa at-tahdhir minhu fala fa'idata min iqamatihi wa in tahaqqaqa muraduhu ma'a mafsadatin a'zam مثل أن يقابل فعله بسب الإسلام ورسول الإسلام وأئمة الإسلام وجب الكف لقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ميلدي رحمه الله تعالى revenons à la clairvoyance des ondes de science. Mais ceci a besoin d'une condition. Cette résidence pour avertir contre le mal qu'il y a dans les pays non musulmans, etc., et montrer le faux dans lequel ils sont, a besoin d'une condition. C'est qu'il arrive à son but sans créer un grand mal. Et s'il n'arrive pas à son but, on lui a interdit de propager le mal et d'avertir contre le mal sur lequel ils sont, il n'y a pas besoin de sa résidence. Sa résidence n'a plus à avoir lieu. Ici, il arrive à son but, mais avec un grand mal plus grand que son but, comme le fait que les non-musulmans fassent à cet avertissement contre le mal dans lequel ils sont, ils font face à quoi? Avec quoi? En insultant l'islam, en insultant les imams de l'islam, en insultant le messager de l'islam, etc. Dans ces cas-là, il doit stopper. Le verset, il est clair. N'insultez pas ceux qui adorent autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ils vont insulter Allah sans science. Ainsi, nous avons embelli à chaque communauté leurs œuvres et ils vont revenir vers leur souverain et Allah, subhanahu wa ta'ala, va leur annoncer ce qu'ils ont accompli comme œuvre. يقول رحمه الله ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عينا للمسلمين ليعرف ما يدبره للمسلمين من المكايد فيحذرهم المسلمون كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان إلى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم. إيه رحمه الله ceci ressemble à la situation d'être dans un pays de l'islam dans la position d'espion pour regarder les stratégies qui se complotent et le complot qui se trame contre les musulmans et contre les pays de l'islam pour les avertir. Comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Hudayfa ibn al-Yaman lors de la bataille des tranchées pour aller voir ce que font les qu'est-ce qu'ils préparent les associateurs à ce moment-là. Le qismu thalith, maintenant on est dans ce cas-là, abadan, je crois que des fois c'est le contraire qui se passe. Hein? Des fois, hein, c'est le contraire qui se passe. Tout ce qui se dit à la mosquée, tout ce, etc., il est donné directement. Le qismu thalith, أن يقوم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دول الكفر كموظف السفارات فحكمها حكم من أقام ما أقام من أجله فالملحق الثقافي مثلا يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام وأخلاقه وآدابه فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندرئ بها شر كبير. La troisième catégorie de permission de la résidence dans les pays de non-musulmans, c'est qu'il y réside pour le besoin d'un État musulman et pour organiser les relations entre le pays musulman et le pays non-musulman. Hein? Comme les fonctionnaires des ambassades et des consulats, etc. Ils ont le même hukm. Comme aussi l'attaché culturel. Il y a une ambassade. Les Saoudiens, ils ont dans leur consulat et dans leur ambassade, ce qu'on appelle l'attaché culturel. Celui-là, sa fonction, c'est de s'occuper et d'observer les étudiants saoudiens qui sont dans un pays pour qu'ils n'y vivent pas et pour qu'ils soient tout le temps en relation avec leur religion, etc., et qu'ils soient dignes du comportement, et ainsi de suite. Ainsi, ce genre de résidence ramène un grand bien et repousse un grand mal. Le qismu rabi'. أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح الإقامة بقدر الحاجة وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول بلاد الكفر على جواز دخول بلاد الكفر للتجارة وأثر ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. الكاتريام كاتيغوري دو ريزيدونس سي كيل ريزيد بور ان بيزوان بارتيكولي كي اوتوريزي بور باغ اكزومبل بور لو كوميرس او بور سوبير اون اوبيراسيون او بور سو فير غيرير دون مالادي اي دونك دون سي كالا اي لوي اوتوريزي دي ريزيدي pour la nécessité et le temps dont il a besoin pour cette nécessité. Et les hommes de science ont annoncé comme quoi il est permis de rentrer dans le pays qui ne sont pas des pays de l'islam pour le commerce. Ils ont rapporté des preuves des nobles compagnons qui commerçaient dans le pays qui ne sont pas des pays musulmans. Qismul khamis, an yuqima lid-dirasa. وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة لكنها أخطر منها وأشد فتكا بدين المقيم وأخلاقه. La cinquième résidence permise, c'est qu'il réside dans le pays non musulman pour des études. Et il est comme la quatrième, c'est la même chose, parce que c'est un besoin, mais il est plus dangereux pour la destruction de la noblesse, du caractère de la personne et de son comportement et de sa religion. فَإِنَّ الطَّالِبَ يَشْعُرُ بِدُنُوِ مَرْتَبَتِهِ وَعُلُوِ مَرْتَبَتِ مُعَلِّمِهِ. Car l'étudiant, il sent, il a un complexe vis-à-vis de celui qui apprend. Il en découle un complexe d'infériorité par rapport à celui. Et il donne. Et dans son esprit, celui qui lui enseigne devient très grand. فَيَحْصُلْ مِنْ دَالِكَ تَعْظِيمُهُمْ وَالِقْتِنَاعُ بِآرَائِهِمْ وَأَفْكَارِهِمْ وَسُلُوكِهِمْ فَيُقَلِّدُهُمْ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ عِصْمَتَهُ وَهُمْ قَلِيلٌ. Il dit dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il va en découler? Puisqu'ils vont devenir importants dans son esprit, il va se trouver diminué devant eux et faible, ils vont décoller qu'il va leur donner une grande importance. Il va être convaincu par leurs opinions et par leur comportement, et il va les imiter, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala protège. Ils sont peu nombreux. يقول ثم إن الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومداهنته فيما هو عليه من الانحراف والضلال. Il dit l'étudiant, il sait son besoin, le besoin qu'il a de son prof. Et cela l'emmène à quoi? L'emmène à caresser son prof dans le sens du poil et à ne pas faire attention au mal et à la division dans laquelle il est. والطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهم ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين الأساسيين شروط أخرى. Et il dit, et l'étudiant, là où il apprend, il a des camarades. Et là, il est en train de nous parler des étudiants qui vont venir du pays de l'islam pour apprendre. Une science qui n'existe pas là-bas. Donc dans l'amphi des universités ou là dans les instituts, etc., il a des camarades. Hein? Avec lequel il va être lié d'amitié. Il va s'allier à eux. Et il va acquérir certains de leurs comportements. C'est pour ça que cette catégorie est très dangereuse et qu'il faut y mettre des conditions de plus. C'est pour ça qu'il dit que cette catégorie de résidence, il a besoin d'autres conditions. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, combien parmi ceux qui sont venus pour prendre cette science ici ont fondu dans la masse ici? Et dans les villes universitaires, vous devez en connaître. Ça commence déjà par... Il commence à donner des cours d'arabe dans les mosquées. Hein? Et après, petit à petit, il ne va même plus aux cours. Hein? Il prépare même ses thèses et ainsi de suite jusqu'à ce que... Hein? Et après, parmi eux, il y a beaucoup maintenant qui font des da'wa de l'égarement. Hein? Ils ont vu qu'il y a une place vide dans les mosquées, ils se sont accaparés. Combien d'exemples il y a? Tourne autour de toi et tu verras les exemples, combien ils sont nombreux. يقول رحمه الله والشرط الأول أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد. فأما بعث الأحداث صغار السن وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم وخلقهم وسلوكهم ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون إليها وينفتون فيها من السموم التي نهلوها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقع. Et la première des conditions que cette cheikh ici pour envoyer quelqu'un étudier ici, c'est que l'étudiant, il doit être d'une grande maturité. Hein? Grande raison, quelqu'un qui réfléchit. Hein? Maturité qui lui permet de faire la différence entre le bénéfique et ce qu'il n'est pas. Une maturité qui va lui donner la possibilité de voir l'avenir lointain. Et donc, voyez des jeunes ou des petits dans l'âge et ceux qui ne sont pas mature, ceci est très dangereux pour leur religion et pour leur comportement. Et ils deviennent un danger pour leur communauté. Quand ils reviennent vers la communauté, ils vont y injecter le venin qu'ils ont avalé ici. Et il dit, rahimahullah, et ceci, il est vu. C'est quelque chose de vécu. يقول فإن كثيرا من أولئك المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به رجعوا منحرفين في دياناتهم وأخلاقهم وسلوكهم وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من الضرر في هذه الأمور ما هو معلوم مشاهد. وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم النعاج للكلاب الضارية. Il dit, et beaucoup parmi ceux qui ont été envoyés sont revenus. Ils sont partis avec une religion, ils sont revenus autres. Ils ont perdu leur comportement, ils ont dévié dans leur religion et dans leur comportement. Et ils sont devenus une grande, un grand inconvénient pour leur société. Ils ont drainé le mal qu'ils ont avalé ici dans leur société. Et ceci est vécu. Il dit l'exemple d'envoyer ce genre de personnes qui ne sont pas matures, c'est comme le fait de laisser des brebis à des chiens sauvages. Hein? La même chose, l'islam. Ah, quand il s'agit du grand, maintenant, et qu'on envoie d'un pays de l'islam, ils ont déjà une éducation musulmane, certains ont peut-être le Coran en entier, certains ont certaines connaissances, etc. Hein? Qu'est-ce qu'il en est? Hein? De nos petits qui naissent ici, que l'on voit dans les écoles, qu'est-ce qu'il en est d'eux? Qu'on regarde combien parmi vous ont grandi ici dans la salle et ont usé leurs jeans dans les écoles de la République et de la laïcité. Regardez des fois votre comportement, le comportement de certains, comment il est. Comment la raison l'emporte? Comment cette éducation que les jeunes ont subie ici, comment des fois ils se heurtent aux enseignements de l'islam et à l'interprétation de nos pieux prédécesseurs, d'une façon, des fois, chez certains. D'autres, Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés de son bienfait, ils ont cette soumission qui a été facile, etc. Et ils ont essayé de se corriger, etc. Et de prendre sur eux-mêmes, etc. Mais regarde dans une grande œuvre. Hein? Et regarde dans ceux qui sont revenus de loin. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a sauvés de situations dans lesquelles ils étaient, hein? Dans le grand banditisme, dans le truc de drogue internationale, etc., etc. Regarde le comportement comment il est, regarde les paroles comment il est, regarde des fois, si quelqu'un le met à bout, comment il devient. Rien, il y a des traces qui restent. Hein? Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guérisse tous. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente vers le meilleur. Hein? Si on n'est pas en train de là, pour se moquer ou quoi que ce soit. Abadan, il est en train de là pour regarder le mal, pour y remédier, pour le comprendre, pour ne pas l'oublier. Parce que dans ce genre de pays, on a pris l'habitude de voir des choses et du blâmable de partout, des photos nues partout, etc. Mais il n'y a plus de blâme. Tout devient normal. Hein? C'est pour ça, des fois, qu'il faut que nous-mêmes, on se donne des ondes de choc pour nous réveiller un petit peu. Hein? La Bouddha à l'islam. Al-Shartu al-Thani, أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل ومقارعة الباطل بالحق لئلا ينخدع بما هم عليه من الباطل فيظنه حقا أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبقى حيران أو يتبع الباطل. وفي الدعاء المأثور اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علي فأضل. Et la deuxième condition pour que cet étudiant puisse résider ici, c'est qu'il doit avoir une connaissance de la législation musulmane qui va lui permettre de faire la différence entre le faux et le vrai, et qui va lui permettre de donner des coups faux pour l'anéantir. Parce que s'il n'a pas cette connaissance de la législation, ben il va se faire avoir par le faux qu'ils ont, il va le prendre comme véridique. Et les situations vont devenir ambiguës pour lui, où il va être incapable de repousser le faux qu'ils ont, et il va rester dans l'hésitation, où il va suivre leur faux. L'un des deux, il va tomber dans le doute, dans l'hésitation, ou alors il va les suivre dans le faux. Et dans le dua, rapporté du messager alayhi sallam, « Oh Allah, montre-moi la vérité en tant que telle et fais que je la suive. » Et fais que je suive cette vérité. Et montre-moi le faux en tant que faux. Et évite-moi, évite-le-moi. Et ne fais pas que la situation est ambiguë pour moi, pour que je ne m'égare pas. C'est-à-dire que la situation soit claire pour moi, pour que je ne m'égare pas. Ça, c'est la deuxième condition. Où sommes-nous dans cette condition? Nous, dans la majorité, beaucoup parmi vous sont nés ici, beaucoup parmi vous, certains ont passé 15 ans ici, ou ça fait 20 ans qu'ils sont là, et ainsi de suite. Où sommes-nous de cette science de la législation qui nous permet de faire la part des choses? الشرط الثالث أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة متنوعة فإذا صادفت محلا ضعيفا مقاومة عملت عملها. La troisième condition, que le demandeur, qu'il ait une religion qui le protège et qui soit une citadelle pour lui dans laquelle il rentre pour se protéger de la mécréance, de la perversité, car le faible dans sa religion, il ne va pas être épargné dans sa résidence dans un pays que dans un pays non musulman, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala le protège. Parce que les attaques sont très fortes. Et la défense, elle est faible. Et les causes de la mécréance, de la perversité sont fortes. Ils sont nombreuses. Ils sont diversifiés. Et quand il rencontre une faiblesse, ben il fait ce qu'il doit faire. Regarde autour de toi ce qui se passe pour nos frères, pour nos sœurs, comment ils font l'éloge de la mécréance parce qu'il y a ces aides, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, etc. Le comportement que je rencontre de l'infirmière, le comportement que je rencontre de tel, de tel, de tel, etc. N'oublions que ce genre de comportement, c'est les musulmans qui doivent en être dignes les premiers. C'est eux les prioritaires à avoir le comportement digne de leur religion et de leur messager, alayhi salatu wassalam. Pourquoi s'ébahir comme ça? Des fois, dans des discussions qui m'ont été rapportées, mais c'est malheureux. La sœur dit à l'autre, mais l'infirmière que j'ai rencontrée tout à l'heure est mieux que toi dans son comportement, dans sa façon de parler. Mon collègue du travail, il est. Subhanallah, t'as oublié sa mécréance, t'as oublié sa perversité, t'as oublié comment il schlingue l'alcool, etc. T'as tout oublié. الشرط الرابع أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون في تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في بلادهم فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين أو كان في البلاد الإسلامية من المدارس نظيره لم يجوز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله لما في الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق وإضاعة الأموال الكثيرة بدون فائدة. Et il dit, rahimahullah ta'ala, la Quatrième résidence possible, c'est le fait d'aller chercher une science dont la communauté a besoin. Et dans l'apprentissage de cette science, il y a un intérêt pour la communauté musulmane. Et qu'il n'y a pas d'école ni d'institut dans les pays de l'islam qui enseigne ce genre de spécialité. Et si maintenant la science, c'est une science qui peut trouver dans un pays de l'islam ou dont la communauté n'a pas besoin, ben il n'est pas permis qu'il vienne pour l'apprentissage ici. Et qu'il vienne résider dans le pays non musulman. Car il y a un danger pour sa religion, danger pour la religion, danger pour le comportement et le gaspillage de l'argent pour rien. Hein? Et regarde, maintenant, combien de nos frères, parmi moi je parle de ceux qui sont ici, qui sont nés ici, qui ont des diplômes et qui ont des métiers dans les pays du Golfe ou d'Afrique du Nord, ont besoin. Et lui, il s'en croûte encore là. Pourtant, il peut trouver quelque chose, hein, pour pouvoir, cette science qu'il a, et cette spécialité qu'il a, il l'a mis au service de cette communauté. Et pourtant ici, ils ne veulent pas le prendre parce que, hein, il a un degré élevé, c'est une position très élevée, ils le mettent de côté parce qu'il s'appelle Abdullah, il s'appelle Mohamed, il s'appelle. On peut être utile à notre communauté. À nous de chercher. Et il faut savoir que tout chemin que nous prendrons dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas un chemin dans lequel il y a des pétales de rose. C'est un chemin dans lequel on sera confronté à des épines. C'est pour ça l'une des descriptions qu'a fait Abu Huraira radhiyallahu anhu arda du taqwa. Il a dit à l'homme qui lui a dit c'est quoi le taqwa, il lui a dit regarde, t'as déjà marché sur un sentier plein d'épines. Il lui a dit oui. Il lui a dit comment tu as fait? Il m'a dit j'ai fait comme ça, j'essaye d'esquiver à droite, d'esquiver à gauche, etc. jusqu'à la même chose à l'islam. Hein? Faut qu'on se dise qu'en arrivant dans un pays de l'islam, on ne va pas trouver l'ansar. On trouvera certains amis qui vont les reconfronter, etc. Mais dans une grande majorité, des gens ne comprennent pas pourquoi tu fais la hijra. Ça effleure même pas dans son esprit parce que tellement les médias, pour eux, la hijra, c'est le fait d'aller chercher de l'argent de l'autre côté. Hein? Donc il faudra un temps pour que tu lui expliques. Et il faut des temps pour que ça rentre dans sa tête. Et qu'il se rende compte que ça, c'est un acte d'adoration. Quand il se rend compte dans un acte d'adoration, à ce moment-là, hein, il devient un noble compagnon. Et c'est arrivé. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on est là pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que fait partie des actes avec lesquels on peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, si c'était déjà. Hein? Et il faut se dire aussi que c'est un grand bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous comble. Il faut le prendre comme un grand bienfait. Il faut le prendre comme un grand bienfait et remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente de ses bienfaits. Hein? Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la réelle compréhension de notre but. Le qism al-khamis an yuqima lis-sakan wa hadha akhtar mimma qablahu wa a'dhamu lima yatarattabu alayhi min al-mafasid bil-ikhtilat at-tam bi ahli al-kufr wa shu'urihi bi annahu muwatin ملتزم بما تقتضيه الوطنية من مودة وموالاة وتكتير لسواد الكفار ويتربى أهله على هذا يتربى أهله بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم وربما قلدوهم في العقيدة والتعبد Et le cinquième akhal islam, c'est que ils viennent dans le pays de non-musulmans pour y résider, pour qu'il devienne son pays. Et ça, c'est plus dangereux que tout ce qui y passait. Parce qu'il en découle beaucoup de mal, c'est de rester au milieu des non-musulmans et de se sentir être un citoyen comme eux et qui est soumis aux mêmes obligations, aux mêmes lois que eux, et il y a une certaine fraternité, une certaine alliance qui en découle, et il y a le fait aussi d'augmenter le nombre des non-musulmans. Et la famille ainsi que les enfants vont être éduqués dans les pays de mécréance, ils vont prendre de leur comportement et de leurs habitudes, et peut-être même ils vont les imiter dans leurs croyances ou dans leur façon d'adorer. Regarde, quand arrive Baum Noël, regarde dans la cité, dans combien de maisons de Mohammed et d'Abdullah, tu vois les lumières clignoter autour du sapin. Il ne faut pas en rigoler à l'islam, ce n'est pas une situation à rigoler, c'est une situation qui doit nous faire pleurer d'arriver à ce stade-là. Ça doit nous faire pleurer de tomber dans les mêmes coutumes. Et nous, dans les pays de l'islam, nous n'avons jamais vu un Européen ou qui que ce soit fêter ni la fête du sacrifice, ni quoi que ce soit qu'on fête. Hein? Et ça, quand on parle de ça, c'est pour se réveiller. Hein? Et pour prendre conscience que la situation est très dangereuse, que demain nous allons retrouver Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tu entends le gamin du 6-7 ans, le sapin qui a amené mon père et les couleurs qu'il n'a pas mis, et vas-y, subhanallah, il s'appelle Abdullah. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. Il a été rapporté dans le hadith, le messager alayhi salatu wasalam, rapporté par l'imam Abu Daoud, par d'autres, celui qui habite avec l'associateur, il est comme lui. La situation est très dangereuse à l'islam. يقول الشيخ رحمه الله وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له وجهة من النظر فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة وعن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله ولما قال لا ترى أنارهما رواه أبو داود والترمذي وأكثر رواه مرسلا عن قيس بن حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الترمذي سمعت محمدا يعني البخاري رحمه الله يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل انتهى. Il dit رحمه الله concernant ce hadith, celui qui vit et qui reste avec l'associateur, il est comme lui. Ce hadith, même s'il est faible au niveau de la chaîne de transmission, il y a une position qui à prendre dedans. C'est que quand le fait d'habiter à côté de quelqu'un et dans la même société de quelqu'un, il y a une forme de ressemblance qui se crée entre les deux. Hein? Une forte ressemblance qui se crée entre les deux. Et que celui qui est étranger va essayer de ressembler à celui qui est à l'origine sur la place dans le pays. Et de Qais ibn Hazim, hein, de Jarir ibn Abdillah, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, je me dis à vous, écoute bien la parole du messager, je me dis à vous, de tout musulman qui habite au milieu des associateurs. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, pourquoi? Ils ont dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi? Il dit, il ne faut pas que leur foyer de feu se fasse face. Parce que les Arabes, à cette époque, ils allumaient le feu devant leurs tentes, devant les maisons. Donc ton foyer de feu ne doit pas faire face à celui de l'associateur. Là maintenant, son feu, tu l'as en haut, tu l'as en bas, tu l'as en face, tu l'as derrière, tu l'as de partout, à droite et de gauche. Hein? Oui ou non? C'est là, c'est notre réalité ici. Ceci est rapporté par Abu Daoud, par Tirmidhi, et la grande partie des transmetteurs l'ont transmis comme Mursal, et de Qais ibn Hazim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, le rapportant de Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Tirmidhi a dit, j'ai entendu, Imam Bukhari, rahimahullah, dit l'authentique sur le hadith de Qais, hein, de prophète alayhi sallatu wassalam, et il est Mursal, intaha, yaqulu al-shaykh, rahimahullah, وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمع بأذنيه ويرضى به بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم وأخلاقهم. Il dit, rahimahullah ta'ala, comment maintenant le croyant peut trouver un apaisement à vivre au milieu des non-musulmans dans un pays où les emblèmes de la mécréance sont déclarés et que les lois, ce sont les lois des Hein, ce sont des lois qui ne sont pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Donc il voit avec ses yeux. Hein, il voit tout ça avec ses yeux. Il l'entend avec ses oreilles et il l'agrée. Et il appartient à ce pays. Et il vit avec sa famille, avec ses enfants. Et il est content d'y être. Comme s'il vit dans un pays de l'islam. Alors qu'il y a un énorme danger pour lui, pour sa famille, pour sa religion, dans leur religion et de leur comportement. Il dit, rahimahullah, c'est à ça, هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر نسأل الله أن يكون موافقا للحق والصواب. Il dit, rahmatullah عليه, c'est ce à quoi je suis arrivé en ce qui concerne le fait de résider dans les pays de mécréance. J'espère qu'il soit conforme à la vérité. Et pour terminer, vous lisez une fatwa de Cheikh Nasser, rahimahullah ta'ala. Et regardez. يقول السائل رجل تدفع له الحكومة الكافرة مساعدة مالية على أساس أنه لا يعمل فإذا وجد عملا قطعت عنه المساعدة ولكنه يعمل في خفاء ولا يبلغهم. La question se posa ainsi à Cheikh Nasser. Un homme, un état non musulman, lui donne une aide financière parce qu'il ne travaille pas. Et quand il trouve un travail, ben lui enlève cette aide. Mais il travaille au noir, il ne le renonce pas. Écoute maintenant la réponse de Cheikh rahmatullah. Fa'ajab, la yajouzu la hada wa la hada. Sawan kana la ya'mal ou ya'mal fil khafa. La yajouzu lil muslimi an yamudda yadahu ila al kafir. Al yadu al ulya خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا في الآية الكريمة ما يكفي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويقول واليد السفلى هي الآخذة ظلمات بعضها فوق بعض. يقول أثر من أثار سكن المسلم في بلاد الكفر. Il dit رحمه الله تعالى en réponse, il n'est pas permis. Ni ça, rien n'est permis. Qu'il travaille, hein, ou là qu'il travaille au noir, ni ça n'est permis. Il dit, Il n'est pas permis. Qu'est-ce qui n'est pas permis? Il n'est pas permis aux musulmans de tendre la main. Hein, comme il cite le hadith du prophète alayhi salam, il dit, il n'est pas permis que le musulman tend sa main, car la main haute est mieux que la main basse. La main haute, c'est celle qui donne. Et la main basse, c'est celle qui prend. Et il a cité le verset où il dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne donnera pas le pouvoir à un mécréant sur un croyant. Hein? Et il a dit, concernant cette question, il a cité le verset des ténèbres, couche de ténèbres sur couche de ténèbres. Et il dit, ça fait partie de l'impact du fait de vivre de la vie du musulman dans les pays de mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala couvre vous de sa sainte miséricorde. Nous arrêtons là pour l'instant. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Wa ahsallahu alaykum. Jazakumullahu khairan. Et on se trouve après Salat al-Maghrib, inshallah.